Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Coup d'envoi de l'Euro de football dispersé dans 11 pays. Avec un an de retard et des contraintes sanitaires, nous serons à Rome à quelques heures du match d'ouverture Turquie-Italie. Élection demain en Algérie, le pouvoir en quête de légitimité sur fond de répression. La France va revoir sa présence militaire au Sahel, des engagements progressifs annoncés par Emmanuel Macron après 7 années de guerre. La lutte contre les déserts médicaux en échec à Montluçon dans l'Allier. Le centre de santé à peine ouvert va devoir fermer faute de praticiens. À Roland-Garros, Nadal, Djokovic en fin d'après-midi après de ses rêves y passe. Et puis la bamboche à nouveau à l'Olympia hier soir où la musique est revenue. Invité d'Europe Midi, le professeur René Friedman, pionnier de la fécondation in vitro. Il publie une histoire de la naissance chez Grasset.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Au départ, l'idée un peu folle de Michel Platini, alors à la tête de l'UEFA, d'organiser l'Euro 2020 de football, non pas dans un seul pays, mais dans toute l'Europe. À l'époque, en 2012, tout le monde lui était tombé dessus. Trop compliqué, trop de transport pour les joueurs comme pour les supporters. À ce cauchemar logistique est venu s'ajouter celui du Covid et des mesures sanitaires différentes à l'entrée de chaque pays. Mais finalement, Simon Rubin, vous êtes à Rome. Ce saupoudrage des matchs dans 11 pays n'a pas que des inconvénients.
Oui, c'est vrai que ce projet d'euro qui avait été présenté en 2012 avec plusieurs pays avait suscité à l'époque beaucoup d'interrogations, mais en pleine pandémie, eh bien, ça a peut-être un avantage, c'est que cette organisation répartit les risques sanitaires. Pas de concentration de centaines de milliers de spectateurs dans un seul pays. Et puis les villes qui ne pouvaient pas accueillir de matchs à cause du Covid, eh bien, elles ont pu être facilement remplacées. Je pense à Dublin, par exemple, qui a dû renoncer à l'euro. Eh bien, l'UEFA a pu délocaliser les matchs à Saint-Pétersbourg, qui était déjà prévu au programme. En Espagne, la région de Bilbao refusait que le stade accueille du public. Pas de problème, c'est l'Andalousie avec Séville qui a pris le relais. Donc une organisation certes complexe parce que ça demande des longs déplacements pour les participants, mais une organisation qui convient finalement plutôt bien à la période d'un point de vue sanitaire.
Alors Simon, vous nous appelez de Rome où sera donné à 21h le coup d'envoi du match d'ouverture Turquie-Italie. Racontez-nous l'ambiance à Rome.
Alors à Rome, les supporters, les journalistes doivent faire un test antigénique, plusieurs attestations sur l'honneur avant d'arriver. Des documents demandés, mais absolument pas contrôlés. Et ce sera un peu la même chose au stade ce soir. L'UEFA recommande aux supporters de se faire tester en amont, mais ce n'est pas impératif. En revanche, des bornes prendront la température des 16 000 spectateurs à l'entrée de l'enceinte. Alors ce sera un test ce soir, même si l'autre vrai grand test, ce sera Budapest mardi prochain. Budapest, seule ville qui va remplir le stade à 100% avec 68 000 spectateurs. Et là, pour le coup, en termes de risque sanitaire, les spécialistes sont un petit peu plus sceptiques.
Simon Rubin, envoyé spécial d'Europe 1 en Italie. Élection demain en Algérie sur fond de répression. Le régime vient de procéder à une nouvelle vague d'arrestations parmi les figures du mouvement contestataire du Irak, dont le journaliste Khaled Drareni, l'ancien correspondant d'Europe 1, symbole du combat pour la liberté de la presse, que notre envoyé spécial Mathieu Bock avait rencontré il y a 2 jours.
Parfois, quand j'étais en prison, je me posais la question, est-ce que ma place est en prison ? Et je me disais, peut-être bien que oui. Peut-être qu'en Algérie, lorsqu'on est un journaliste libre, indépendant, quand on défend sa profession et ses convictions, on doit aller en prison, et bien qu'à cela ne tienne. Je suis en prison parce que je dois être en prison dans l'Algérie d'aujourd'hui. Pour moi, c'était peut-être une étape importante par laquelle il fallait passer. Je n'ai pas peur des mots, je n'ai pas peur, c'est loin d'être démagogique, mais pour moi, l'Algérie aujourd'hui, c'est la Corée du Nord, de l'Afrique du Nord et du Maghreb.
Le journaliste Khaled Drareni, juste avant sa nouvelle arrestation. Mathieu Bock, ce climat de répression se fait sentir aujourd'hui encore dans les rues d'Alger.
Oui, il n'y a qu'à aller voir ces rues d'Alger ce matin, complètement quadrillées par les forces de l'ordre, des camions bleus garés à perte de vue. D'habitude, le vendredi, c'est jour de manifestation du Irak, mais depuis le Covid, elles sont interdites. Aujourd'hui, toutes les sorties de métro sont fermées, sont bouchées, les entrées de la ville sont filtrées, l'ambiance est pesante dans les rues, en ville, compliqué pour les Algériens de nous dire devant les policiers s'ils allaient voter oui ou non demain. Sofiane a tout de même accepté de nous parler, écoutez-le.
Regardez autour de vous ce qu'il y a. Quand vous avez sorti votre micro, comment ils ont sorti pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est un journaliste qui est autorisé. Vous trouvez ça normal que la police ne sache pas que vous êtes un journaliste, vous êtes autorisé et vous regardez comme ça. Ça, c'est une intimidation. C'est pour ça que les gens ne veulent pas donner leur opinion.
Et vous alors, est-ce que vous irez voter demain ?
Personnellement, non. Niet. Moi, non. Je ne suis pas concerné par ce vote. Parce que c'est un vote comique. On vote pour changer quelque chose, pour créer une chose, mais pas voter pour voter.
Alors demain, ce qui sera scruté avant tout, c'est la mobilisation des électeurs. On s'attend à une abstention très forte. Les taux de participation en général tournent ici autour de 30 à 35%.
Mathieu Bock, envoyé spécial d'Europe 1 en Algérie, en direct avec nous. Un peu plus au sud, au Sahel, la prochaine fin de l'opération Barkhane. Emmanuel Macron a annoncé hier le désengagement progressif de la plus importante opération extérieure de l'armée française après quasiment 7 ans de guerre, sans vainqueur. Aude Leroy, qu'est-ce que ça signifie sur le terrain ?
Eh bien, ça ne veut pas dire déjà que la France abandonne le Sahel. Elle tourne la page de l'opération extérieure, telle qu'on la connaît depuis 2014, celle qui mobilise plus de 5000 soldats, notamment dans des opérations de contrôle de zone sur un territoire grand comme l'Europe. Eh bien, ça, c'est terminé. La décision a été prise en Conseil de défense restreint il y a un mois et demi. Il s'agit en fait de revenir à une présence militaire plus légère, plus souple, avec la fermeture de certaines bases, d'abord au Nord Mali, puis en redescendant vers le sud. Cela pourrait commencer dès cet été. Le dispositif change, mais pas l'objectif, celui de continuer la lutte antiterroriste, aussi bien avec les pays africains et européens, mais aussi de manière autonome en s'appuyant sur ses forces spéciales. C'est l'opération Sabre. La France accompagnera aussi toujours la formation des soldats du G5 Sahel, qui regroupe les 5 principaux pays de la région. Et ces soldats pourront également toujours prêter main forte à la mission de l'ONU, par exemple. D'ici la fin de 2022, les effectifs militaires français au Sahel pourraient donc être divisés au moins par 2.
Les grands de ce monde se retrouvent en personne, pour la première fois depuis près de 2 ans, sommet du G7 à Carbis Bay, station balnéaire des Cornouailles, où il est prévu demain un barbecue sur la plage avec guimauve grillée au feu de bois, mais sans poignée de main entre dirigeants et avec des journalistes tenus à distance, cantonnés à une 40aine de kilomètres de la Réunion. Le fléau des cyberattaques, une partie de Porto Rico plongée dans le noir, 500 000 habitants de l'île américaine privés d'électricité, Emmanuel Duteil.
Alors, pour le moment, c'est impossible de faire le lien entre la cyberattaque et l'incendie. Ce qui est certain, c'est que les sites internet du gestionnaire d'électricité de l'île, qui vient d'être créé, ont été attaqués et qu'un peu plus tard, un incendie dans une station électrique s'est déclaré. C'est cet incendie qui a plongé dans le noir 500 000 de personnes. En tout cas, en ce moment, les cyberattaques se multiplient sur les administrations et les entreprises. Hier, par exemple, on a appris que le géant mondial de la viande, JBS, a payé 11 millions de dollars en bitcoin après une attaque. Un peu plus tôt, c'est un gros opérateur d'oléoduc américain dont l'activité avait été bloquée, là aussi par une attaque, qui avait dû payer avant de réussir à récupérer une partie de ses tronçons. Les attaques ont atteint un tel niveau qu'elles ont récemment poussé le département américain de la justice à les considérer au même niveau de risque que des attaques terroristes.
Emmanuel Duteil.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Une pause avant la suite. Montluçon, faute de médecins, le centre ferme, la santé recule, le désert médical avance.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Ce devait être le remède au désert médical du département de l'Allier. Le centre de santé de Montluçon, ouvert en septembre dernier, va fermer ses portes dans 3 semaines. Et pas par faute de clients, Zoé Pallier, mais par faute de praticiens.
Oui, et ça fait 7000 patients à prévenir. Je peux vous dire que la secrétaire a gardé l'oreille collée au téléphone quasi toute la journée pour répéter toujours le même message.
Oui, bonjour madame. Ah non, je suis désolée, la prise de rendez-vous n'est plus possible. Le centre va fermer au 30 juin. Voilà, je suis désolée.
Alors dans ce centre, il y avait 3 médecins. L'un part à la retraite, l'autre est en arrêt maladie prolongée et le dernier quitte la région. Les gérants ont bien tenté de recruter des médecins étrangers, mais impossible de faire reconnaître leur diplôme avant la fin de l'année. Hier, en salle d'attente, les patients étaient désemparés.
Il faut que je me cherche un autre docteur.
Oui. Bon courage. Ah oui, parce que moi, j'ai téléphoné à 17 docteurs. Tout le monde m'a dit que c'était complet. Ouais. Par contre, on peut aller jusqu'à Vallon-en-Sully.
Vallon-en-Sully, c'est à 30 km de Montluçon, le bout du monde pour des personnes âgées et malades. Paulette est cardiaque, elle a besoin d'un suivi régulier.
L'hôpital, c'est très bien, mais malheureusement, c'est pas ma chose à moi. Moi, c'est un docteur qui fait mes ordonnances. Tous les mois, je prends des médicaments. Hein.
Retard de diagnostic, infection, détresse, les généralistes du centre lancent l'alerte. Les patients vivent dans leur chair, la pénurie de médecins. Cette fermeture aura des conséquences dramatiques sur leur santé.
Zoé Pallier à Montluçon, le tennis.
Europe 1. Radio officielle de Roland-Garros.
Avec cet après-midi les 2 demi-finales hommes d'allure très différente, Axel May.
Oui, d'un côté la demi-finale qui s'était dessinée dès le tirage au sort de ce Roland-Garros entre les deux trentenaires Nadal, Djokovic, leur 58e confrontation, toute compétition confondue, avec un ratio très favorable à l'Espagnol sur la terre battue de la Porte d'Auteuil, 7 victoires à 1. Et puis, de l'autre côté, la jeune génération Tsitsipas, Zverev, tous les deux droitiers, reconnaissables à leur corps longiligne et leurs cheveux mi-longs, mais dans des registres différents, le grec est plus créateur, l'allemand davantage défenseur. Deux affiches qui enthousiasment en tout cas, le français Pierre-Hugues Herbert qualifié, lui, pour la finale du double.
C'est vraiment une fin de tournoi très intéressante, avec toujours le suspense de se dire, bah oui, l'ultra favori, c'est celui qui a gagné 13 fois, qui joue un tennis extraterrestre encore. Et à côté de ça, bah, des challengers qui, voilà, Djokovic qui est un mondial et qui a encore fait une partie extraordinaire contre Berrettini, et les deux jeunes qui poussent et qui toquent à la porte des grands chelems depuis un moment. Donc c'est vraiment génial d'avoir ça sur une fin de tournoi.
Si Nadal et Djoko s'étaient affrontés l'an dernier en finale, Tsitsipas s'était arrêté, lui, en demi, et Zverev en huitième.
La fête, enfin, le retour à la vie normale hier soir dans l'une des plus belles salles parisiennes, l'Olympia, empli de musique et de clameurs pour le Festival des Inrocks. Vous y étiez, Angèle Châtelier.
Oui, écoutez l'ambiance qu'il y avait hier soir. Alors c'était difficile de rester assis comme c'est la règle face à une telle ferveur. Donc oui, très vite, les 1200 spectateurs se sont levés pour danser. Mais pour autant, les masques ne tombaient pas. Et puis nous avons tous dû montrer un test négatif à l'entrée ou un certificat de vaccination. Pauline, une spectatrice que j'ai pu rencontrer, a presque oublié de s'en occuper tellement elle était excitée de retourner à un concert.
On a dû faire des tests Covid avant qu'on n'avait pas fait. Donc oui, on est un petit peu en avance, mais c'était une longue course cet après-midi. On est émus, hein. En vrai, un petit peu. En plus, l'intérieur est super beau. C'est bête et bateau, mais ça rend heureux, hein. Heureuse. D'un côté, j'ai l'impression que ça s'est jamais arrêté. Et du coup, que c'est encore mieux qu'avant.
Mieux qu'avant, même s'il n'y avait pas de bar. Alors les concerts se sont enchaînés. En tête d'affiche de la soirée, le groupe d'électropop La Femme, qui plaisantait sur scène de toutes les contraintes sanitaires.
Mais c'est ça, il n'y a pas de concert, malheureusement.
En temps de Covid, il faut faire très attention. Donc c'est super qu'on ait au moins un public.
Alors à la sortie des concerts, vers 22h30, beaucoup de spectateurs transpirants ont eu du mal à se remettre de leurs émotions.
C'est de ouf, c'est très très chaud là.
Dans la salle, il y avait une sensation d'excitation et puis de quelque chose qu'on a l'impression de redécouvrir, mais du coup avec une autre saveur. C'est juste sensation de liberté, quoi.
Alors maintenant, il va falloir mettre les bouchées doubles. La salle accueille normalement 320 spectacles par an et là, le 10 juin, ce n'était que le premier.
Merci pour ces échos sonores, Angèle Châtelier. Le temps, Anissa l'a dit, la chaleur s'invite au programme de ce dernier jour de la semaine.
Oui, les températures grimpent. Patrick, il va faire chaud cet après-midi. Écoutez bien, 34 degrés à Nîmes attendu, 33 en Avignon, 32 degrés à Brive-la-Gaillarde, 31 à Lyon et Montpellier, 30 pour Marseille, Bordeaux et Toulouse, 29 degrés à Besançon, 28 degrés à Paris et Clermont-Ferrand, 27 pour Aurillac, 26 à Nice et Rouen, 25 à Lille. On respire mieux à Biarritz avec 23 degrés. 20 degrés du côté de Cherbourg cet après-midi. Alors dans le ciel, le soleil brille de manière générale, nous avons une belle journée. Attention, quelques entrées maritimes au bord de la Manche. Mais dans le sud-ouest, les températures élevées vont faire que sur l'Occitanie, on risque encore d'avoir un risque orageux, surtout sur les Pyrénées, donc soyez prudents. Sur les montagnes corses, là aussi le tonnerre gronde, mais en général quand même, vous allez pouvoir en profiter.
Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.